Chers collègues, ce colloque de l'IUF sur les ressources est le lieu adéquat pour aborder en fait les ressources énergétiques des noyaux atomiques sous un angle plus fondamental et plus général qu'à l'accoutumée. L'objectif de cette intervention, c'est d'esquisser des bases de physique nucléaire moderne et peut-être de permettre à chacun de cheminer sur la thématique de l'énergie nucléaire et également de progresser sur cette thématique et de permettre un débat éclairé sur ce sujet. Mais vous verrez que l'énergie nucléaire est en fait une sous-partie de la thématique plus large, la ressource énergétique du noyau. Alors il est intéressant de constater que les premiers physiciens ayant travaillé sur le noyau ou la radioactivité se posaient déjà la question de la ressource énergétique. Quelle est la source d'énergie des rayons de Becquerel? Alors cette ressource énergétique du noyau atomique a été en fait emmagasinée lors de sa synthèse, soit sa synthèse naturelle, quelques minutes après le Big Bang, ou bien dans les étoiles, plusieurs centaines de millions d'années après, ou lors de sa synthèse artificielle, dans les laboratoires et principalement maintenant dans les accélérateurs. Alors cette ressource énergétique du noyau atomique est restituée par la radioactivité, ou bien la fission, ou la désexcitation du noyau. Alors je vais essayer de présenter dans cette intervention une vision unifiée de ces trois mécanismes. Alors outre son intérêt fondamental, qui a un lien avec la structure nucléaire, se pose la question de l'exploitation sociale de ces ressources énergétiques, soit la radiothérapie qui consiste, ou la hadronthérapie qui consiste à brûler des tumeurs, ou bien l'énergie nucléaire, et j'évoquerai ces applications à la fin de cet exposé. Alors, pourquoi la radioactivité est un mécanisme souvent associé au noyau? Pourquoi est-il propre, ce mécanisme de restitution de l'énergie, est-il propre au noyau? Alors, on peut invoquer plusieurs raisons. La première est qu'au sein du noyau, trois des quatre interactions fondamentales sont à l'œuvre. Il y a l'interaction électromagnétique, mais il y a également une autre interaction qui est moins connue du citoyen, qui est l'interaction forte, qui est d'intensité plus forte que l'interaction électromagnétique, qui cimente le noyau, mais qui est de portée plus courte. Il y a également l'interaction faible, qui est d'intensité plus faible que l'interaction électromagnétique, et de portée plus courte. Celle-ci s'exprime car elle viole des lois de conservation qui, ces lois, sont conservées, donc vérifiées par les autres interactions. Donc cette interaction faible peut s'exprimer dans des canaux de désintégration dans lesquels les autres lois n'ont pas cours. Donc ces trois interactions engendrent un tumulte au sein du noyau et qui permettent une radioactivité qui va consister en l'émission d'une particule qui peut être retardée par ces différentes actions de ces interactions. Une autre raison qui rend la radioactivité propre au noyau est que le noyau n'est pas une particule élémentaire, il est constitué de neutrons et de protons, il peut donc s'exciter et se désexciter en émettant un rayonnement. Ces neutrons et ces protons sont ce qu'on appelle des fermions. Ils se situent sur des couches énergétiques et via l'interaction faible, il est possible de transformer un neutron en proton ou vice-versa, ce qui va engendrer aussi un mécanisme de radioactivité. Enfin, vous le savez, la magnitude de l'énergie libérée lors de ces réactions radioactives est de l'ordre de 1000 à 1 million de fois plus élevée que dans des réactions chimiques. Donc je vais tenter d'esquisser une vision moderne de la radioactivité, qui est ce mécanisme de restitution des ressources énergétiques du noyau. Tout d'abord, la frontière entre un noyau stable et un noyau radioactif peut être ténue. En effet, en 2003, dans un article publié dans Nature, une équipe a montré que le bismuth 209, qui était jusqu'alors considéré comme stable, c'est-à-dire non radioactif, était en fait radioactif alpha, il émettait la particule alpha, avec au bout d'un temps typique de l'ordre de 2 milliards d'années, c'est-à-dire 1 milliard de fois l'âge de l'univers. Donc il peut y avoir une frontière assez ténue entre noyau stable et noyau radioactif. Alors quel phénomène va déclencher cette restitution de la ressource énergétique du noyau? Eh bien, il s'agit d'une des trois interactions que je viens de citer, qui va permettre la transition entre un noyau père, et donc qui est l'état initial, et l'état final, qui est donc composé d'un noyau fils et de la particule émise. Le caractère spontané ou aléatoire de la radioactivité, que vous connaissez certainement avec ses exponentielles décroissantes et qui étonnait les premiers physiciens ayant étudié la radioactivité, ce caractère aléatoire provient en fait du caractère probabiliste de la physique quantique, où l'on part d'un état initial, noyau pair, vers un état final, noyau fils et fragments, via une interaction. Quelle est la vision moderne et actuelle de la radioactivité ? Si je vous parle de radioactivité nucléaire, vous allez sûrement penser aux trois premières lettres de l'alphabet grec. La situation actuelle est en fait un petit peu plus générale. On compte actuellement une dizaine de radioactivités, et il est plus pertinent de les classer en fonction de l'interaction responsable du mécanisme radioactif. Je vais en évoquer quelques-unes. Vous voyez que certaines des radioactivités ont été découvertes récemment, comme la radioactivité de protons. Je vais donc évoquer ici quelques phénomènes et m'intéresser ici à la radioactivité par interaction faible, la radioactivité bêta. Un noyau peut être stable par interaction forte, c'est-à-dire que les nucléons, les neutrons, les protons restent liés, mais instable, donc radioactif par interaction faible, c'est-à-dire que les protons vont se transformer en neutrons, ou vice-versa. Du point de vue du physicien nucléaire, ces noyaux instables par interaction faible, donc émetteur bêta, sont des édifices nucléaires liés par l'interaction forte, au même titre que les noyaux qui sont stables par des intégrations bêta. Ces noyaux instables par des intégrations bêta n'existent plus sur Terre, sauf les noyaux de très longue durée de vie, qui ont par exemple une vie, donc un temps d'émission typique, un temps de désintégration typique de l'ordre du milliard d'années, comparable à l'âge de la Terre, comme le potassium-40. Alors quelle est la proportion de noyaux stables par interaction faible par rapport aux noyaux qui sont instables par interaction faible? Ici, vous voyez ce qu'on appelle une carte nucléaire, où en fait on classe les noyaux par des petites cases en mettant le nombre de protons en ordonnée et le nombre de neutrons en abscisse. Les noyaux stables par interaction faible et qui sont liés par interaction forte, donc des noyaux qui ne sont pas radioactifs, sont représentés par les petites cases noires. On en compte environ 300 et ils ont donc été l'objet de l'étude de la physique nucléaire, objet principal d'étude au cours du XXe siècle. Depuis quelques années, on arrive à produire dans des accélérateurs des noyaux qui sont ici en orange et en bleu, qu'on appelle donc les noyaux instables, les noyaux exotiques, qui sont émetteurs bêta, instables par interaction faible. Et ces noyaux forment aussi une structure nucléaire et qui permettent en fait d'étudier le noyau, cet édifice nucléaire, dans toute sa généralité. On en compte à peu près 6000. Tous n'ont pas été produits, et donc on n'a pas une idée extrêmement précise du nombre de ces noyaux exotiques, on pense qu'il y en a à peu près 6000. Ça veut dire que pendant un siècle, pendant le XXe siècle, on a étudié 5% des édifices nucléaires possibles, et depuis quelques années, on accède à une quantité de données plus importante, ce qui apporte certaines révolutions sur des concepts établis en physique nucléaire. Je reviens au tableau sur la radioactivité pour vous parler de la radioactivité par interaction forte. La radioactivité par interaction forte, eh bien, le noyau va donc émettre des nucléons, des protons ou des neutrons, soit de manière séparée, soit deux protons couplés. Alors, je vais vous montrer ici un exemple de radioactivité de protons qui a été découverte il y a une dizaine d'années, où le noyau va émettre deux protons de manière simultanée. Ce que je vous montre ici, c'est la détection d'un noyau de fer 45, et vous voyez les deux protons qui sont émis par ce noyau. C'est un processus qui a lieu à une échelle de l'ordre du millionième de nanomètre. Donc c'est une image tout à fait fascinante. En ce qui concerne la radioactivité par interaction forte, vous voyez que le nombre, en ce qui concerne le fragment émis, qui est sur la colonne du milieu, vous voyez que le nombre de nucléons émis peut aller de quelques-uns à 4 nucléons, c'est la célèbre particule alpha, qui n'est rien d'autre que 2 protons et 2 neutrons liés, jusqu'à une radioactivité qui a été découverte dans les années 80, qu'on appelle la radioactivité cluster ou agrégat, où le noyau va se séparer d'un petit noyau. Il va émettre un petit noyau de carbone, de néon, etc. Jusqu'à la fission, qui peut être considérée comme un cas extrême de radioactivité. J'en viens donc à vous parler de la particule alpha, qui est, comme on le voit historiquement, une des premières radioactivités à avoir été découverte. Pourquoi ? La particule alpha est composée de deux neutrons et deux protons. Elle est ce qu'on appelle en physique nucléaire une particule magique, et même doublement magique. Cela veut dire que ces protons et ces neutrons se trouvent sur ce qu'on appelle une fermeture de couche énergétique. Elle est extrêmement liée, ce qui est l'analogue d'un gaz rare en physique atomique. Donc dans un modèle simple de radioactivité, cette particule doublement magique a une probabilité importante de se préformer au sein du noyau avant d'être émise. Et ce qui peut expliquer le fait que la radioactivité alpha ait été une des premières à être détectée. Mais cela invoque l'idée que dans le noyau, les états nucléaires peuvent se présenter comme une structure moléculaire à l'échelle du noyau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ensemble de protons et de neutrons liés, vous allez avoir un ensemble de particules alpha. Le noyau va être constitué par un ensemble de particules alpha qui peuvent interagir par des neutrons de valence. Vous allez avoir des petites molécules à l'échelle du noyau. Alors la particule alpha a joué un rôle primordial dans la nucléosynthèse, donc sur nos origines cosmiques, c'est-à-dire la synthèse des noyaux. Alors ici, l'objectif n'est pas de regarder la figure en détail, c'est simplement un zoom du bas de la carte des noyaux. Quelques minutes après le Big Bang, les premiers éléments, comme les protons, vont fusionner entre eux pour donner des éléments plus lourds, et ainsi de suite. Mais vous voyez peut-être sur cette figure qu'il n'existe pas d'éléments liés ou d'éléments stables pour A égale 5, c'est-à-dire ayant 5 nucléons, ou pour A égale 8. Si vous prenez deux particules alpha et que vous essayez de les faire fusionner, eh bien, le système ne va pas rester lié et les particules alpha vont se séparer. Pourquoi ? Parce que la particule alpha est doublement magique et donc on gagne beaucoup d'énergie à séparer ces deux particules alpha. Donc la nucléosynthèse primordiale, quelques minutes après le Big Bang, s'arrête aux éléments légers. Donc la question est donc d'où proviennent les éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène, qui nous constituent, et où ont-ils été synthétisés ? Ils ont été synthétisés dans le cœur des étoiles, plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'années plus tard, par des réactions de fusion, où cette fois-ci, non pas deux particules alpha vont fusionner, mais trois particules alpha vont fusionner, pour donner 3 fois 4, puisqu'il y a 4 nucléons par particule alpha, 3 fois 4 égale 12, pour donner le carbone 12, et un état excité du carbone 12. Pourquoi cet état excité du carbone 12, qu'on appelle état de Hoyle, est-il particulièrement énigmatique ? Parce qu'on s'est longtemps posé la question de la structure de ces états. Comment les nucléons, les neutrons, les protons dans cet état excité du carbone 12 se répartissent-ils ? Eh bien, il semblerait, certaines études donc récentes ont montré, qu'en fait, cet état de Hoyle, du carbone 12, qui est le point de passage obligé de la nucléosynthèse pour les éléments carbone et plus lourds, soit un état de molécules nucléaires. Vous voyez ici une description théorique de cet état, où vous voyez trois particules alpha, la structure en fait, des fonctions d'onde de trois particules alpha, dans cet état de Hoyle. Donc cet état de Hoyle, selon les dernières recherches, serait plutôt un gaz dilué de trois particules alpha. La particule alpha joue également un rôle sur la synthèse de nouveaux éléments. On peut se poser la question jusqu'où va la table de Mendeleïev. Est-ce qu'un élément avec 100 protons existe ? Est-ce qu'un élément avec 110 protons existe ? Est-ce qu'un élément avec 120 protons existe ? Sur cette carte, cela correspond à l'extrémité en haut de cette carte des noyaux. Bien récemment, l'élément Z égale 118 a été produit. Comment expérimentalement signer la production de cet élément ? Eh bien, on la signe parce que cet élément est émetteur alpha, et on la signe par la méthode dite des corrélations génétiques, où cet émetteur alpha va ensuite donner un élément qui lui-même est émetteur alpha, et en détectant les particules alpha ainsi émises, on va pouvoir, lorsqu'on tombe sur un noyau connu en fin de chaîne, remonter la chaîne et en déduire que l'élément Z égale 118 a été produit. Il existe des prédictions indiquant que vers Z égale 100, entre 120 et 130, existera un îlot de stabilité, donc des noyaux ou des éléments particulièrement stables, dus à un effet de fermeture de couche. Donc la limite du tableau de Mendeleïev est actuellement sans cesse reculée depuis quelques années, ça continue encore, et on n'a pas encore atteint la limite, semble-t-il, du tableau périodique des éléments. Alors j'en viens aux applications et à l'énergie nucléaire. Donc j'arrive à ce cas qui finalement est un cas qu'on pourrait appeler particulier et pas central des ressources énergétiques du noyau atomique, comme j'ai essayé de le montrer. Alors j'aimerais donner quelques bases, peut-être bon nombre d'entre vous les ont déjà, mais j'aimerais quand même les donner. Donc l'énergie nucléaire est actuellement produite par fission, qui, on l'a vu, peut être considérée comme un cas extrême de radioactivité, où on émet un fragment si gros que le noyau se coupe en deux. Pour qu'un noyau fissionne, eh bien, il faut qu'il soit donc enclin à fissionner, il faut donc qu'il soit assez lourd. Pourquoi? Parce que s'il est assez lourd, il a beaucoup de protons, et comme tous les protons se repoussent, il sera enclin à fissionner. Vous voyez donc ici, dans le cercle supérieur, la région des noyaux potentiellement fissiles, et lorsqu'ils vont fissionner, ils vont aller peupler les fragments. Les fragments vont aller peupler en fait bien la carte des noyaux, vers bien sûr des masses plus faibles. Mais vous voyez la variété des noyaux qui peuvent être produits par fission. Il peut y avoir des noyaux de longue durée de vie, émetteurs bêta, des noyaux de courte durée de vie, etc. Donc la production d'énergie nucléaire qui consiste à exploiter les ressources du noyau à l'échelle macroscopique, la production d'énergie nucléaire par fission est une production qu'on pourrait qualifier de sale, dans le sens où elle produit des déchets radioactifs en nombre varié, qu'il faut savoir traiter d'une manière ou d'une autre. Alors, des études existent sur comment traiter ces déchets nucléaires. Par exemple, il y a actuellement la recherche et développement sur ce qu'on appelle des systèmes hybrides, c'est-à-dire un couplage entre un accélérateur et un réacteur nucléaire. L'idée étant que l'accélérateur va servir à générer une source de neutrons, et ces neutrons vont aller irradier les fragments qui vont eux-mêmes fissionner pour donner des fragments moins radioactifs. Donc c'est ce qu'on appelle un système hybride qui est actuellement à l'étude. Je voudrais aussi donner quelques ordres de grandeur par rapport aux désintégrations radioactives. Le becquerel consiste donc en une désintégration radioactive par seconde. Notre corps contient du potassium-40 qui a été produit dans les étoiles. Vous êtes donc radioactif et votre activité est de l'ordre de 4000 becquerel, c'est-à-dire que chaque seconde, vous émettez plusieurs milliers d'électrons, de photons et de neutrinos. Cet ordre de grandeur de quelques milliers de becquerel est à garder en tête lorsqu'on compare cet ordre de grandeur avec une irradiation externe, par exemple, de 10 becquerel, qui reste négligeable. Qu'en est-il du siever? J'ai entendu par-ci par-là que c'était très difficile à expliquer ce que c'était qu'un siever, qu'il fallait être un expert, etc. Tentons l'expérience. Le siever correspond au dépôt de 1 joule par kilogramme. 1 joule, ça correspond à peu près à l'énergie d'un claquement de main. Donc, une irradiation correspondant à un siever correspond en fait à un dépôt d'énergie par irradiation interne considérable, puisque ça peut être localisé dans le corps humain. Donc un siever va amener des séquelles probablement létales. À titre de comparaison, notre radioactivité interne nous irradie nous-mêmes de l'ordre de quelques microsieverts par semaine. Ainsi, une situation normale n'est pas une situation de radioactivité nulle. Une radioactivité de l'ordre de quelques milliers de becquerel ou de l'ordre du microsiever a peu d'effet. Par contre, une radioactivité de l'ordre du gigabecquerel ou de quelques dizaines de millisievers aura un impact ou peut avoir un impact important ou pas sur l'organisme. À un titre d'exemple, une autre exploitation de l'énergie nucléaire consiste en la hadronthérapie, qui consiste donc à irradier de manière localisée les tumeurs par dépôt d'énergie. Ainsi, le centre de protonthérapie d'Orsay irradie de quelques dizaines de sievers les patients au niveau d'une tumeur localisée au niveau de l'œil, et avec un taux de succès de 96% de circonscription de la tumeur 5 ans après l'irradiation. Je vais donc conclure. Les ressources énergétiques du noyau atomique s'expriment de manière variée. La radioactivité en est la première expression, et on en compte une dizaine, et on peut considérer la fission comme un cas extrême de radioactivité. Le corps humain restitue en permanence les ressources énergétiques du potassium 40, qui est d'origine stellaire. Et ces mécanismes complexes radioactifs permettent de comprendre notre origine cosmique, c'est-à-dire la nucléosynthèse, la limite, de dessiner petit à petit la limite de la table de Mendeleïev, et aussi d'étudier de nouveaux modes d'excitation dont je n'ai pas eu le temps de parler. Quant aux applications sociales, il ne faut pas oublier la hadronthérapie. J'ai récemment fait une conférence auprès de lycéens qui étaient surpris qu'on puisse irradier des personnes pour les soigner. Et finalement, reste la question de l'énergie nucléaire. J'espère avoir permis d'éclairer légèrement ce débat qui, finalement, mes chers collègues, dépend de beaucoup d'autres disciplines autres que la physique nucléaire. Je vous remercie.